Et ce matin, sur Média, on parle du cancer du nasopharynx. Malheureusement, dans la majorité des cas, il serait diagnostiqué à un stade avancé. C'est aussi l'un des plus rares. On en parle avec vous, professeur Ali Tahri. Bonjour.
Bonjour, Maghrim.
Je rappelle que vous êtes professeur d'oncologie à Marrakech. Alors d'abord, comment reconnaître et puis comment définir surtout ce cancer du nasopharynx?
Alors, le cancer du nasopharynx, qu'on appelle communément le cancer du carone, oui, c'est une tumeur qui va se développer derrière les fosses nasales. C'est là où il y a ce carone, qui est la partie supérieure du pharynx, c'est pour ça qu'on appelle rhinopharynx, et ça va donner des une symptomatologie liée justement à cette localisation qui est un carrefour aérodigestif entre les voies auditives, les voies nasales et la base du crâne, puisqu'il est situé juste au-dessous de la base du crâne.
Comment reconnaître donc, quand faut-il consulter ces signes normalement qui devraient nous en alerter?
Le cancer du carone a plusieurs symptômes, et on a ce qu'on appelle un syndrome otologique, un syndrome rhinologique, un syndrome ganglionnaire et un syndrome neurologique. Je vais développer. Alors, d'abord, on a un syndrome rhinologique. C'est quoi? C'est on a une obstruction nasale et de préférence, c'est-à-dire majoritairement unilatérale. C'est-à-dire on a une fosse nasale qui est obstruée. C'est-à-dire on respire qu'avec une seule fosse nasale, une est obstruée. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, on a des écoulements nasaux et des épistaxis, c'est-à-dire un écoulement sanguinolent du nez. Quand on a une obstruction nasale unilatérale et avec un épistaxis, c'est un signe, qui peut orienter éventuellement faire un cancer du carone et doit pousser à la consultation. Ça, c'est du côté rhinologique. Du côté otologique, on peut avoir une hypoacousie, c'est-à-dire on n'entend pas bien d'une oreille, surtout du côté d'obstruction nasale. On a des bourdonnements d'oreilles, du bruit au niveau de l'oreille. Parfois, on a même des vertiges. Et le syndrome ganglionnaire, on a parfois des ganglions cervicaux. Les ganglions cervicaux peuvent être banaux et liés à l'infection. Mais quand on a un syndrome otologique, c'est-à-dire au niveau de l'oreille et une obstruction nasale, cette triade oriente plutôt vers un cancer du carone. Et quand la tumeur se développe, elle va envahir la base du crâne, puisque, encore une fois, le carone est situé juste au-dessous de la base du crâne, et on aura des signes neurologiques. Parfois, on a des céphalées, c'est-à-dire
des maux de tête?
Des maux de tête assez importants. Parfois, on a une diplopie, c'est-à-dire les gens commencent à voir double, et on a des paralysies oculomotrices, parce qu'il y a les nerfs oculomoteurs qui passent par cette région-là.
Les causes, est-ce qu'on les connaît toutes? Professeur Tahri, je rappelle que vous êtes professeur d'oncologie.
Les causes, il y a certains facteurs de risque. Il y a une répartition géographique assez particulière pour ce cancer du carone. Ce cancer, il est très fréquent dans le sud-est asiatique.
D'accord.
C'est-à-dire au niveau du Vietnam, au niveau de la Chine, c'est là où ce cancer est très fréquent. C'est une région endémique. Il y a une région, c'est-à-dire où il y a une fréquence intermédiaire. C'est notre région, c'est le pourtour méditerranéen et l'Afrique du Nord. Et l'Europe, c'est une zone de très faible incidence.
D'accord.
Alors pourquoi les raisons qui sont invoquées pour ça, il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a des facteurs génétiques, c'est-à-dire il y a des familles où il y a beaucoup de cancers de carone,
oui. Premièrement.
Deuxièmement, il y a un facteur infectieux viral, ce qu'on appelle le virus de l'Epstein-Barr virus, qu'on appelle EBV, qui entraîne la mononucléose infectieuse, qui est une maladie bénigne, mais ce virus, il est incriminé dans la genèse du cancer du carone. Et le troisième facteur qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi ce cancer est très fréquent dans le sud-est asiatique, c'est l'alimentation. Là-bas, on mange beaucoup de viande et de poissons qui sont séchés, salés, qui sont riches en nitrosamine. Et ces nitrosamines, c'est prouvé que c'est un facteur de risque du cancer du carone. Chez nous, par exemple, il y a aussi ces produits-là peuvent aussi être riches en nitrosamine et pourraient éventuellement être des facteurs de risque de ce cancer.
D'accord. Alors, comment est posé le diagnostic, professeur Tahri?
Alors, quand on a ces symptômes-là, d'abord, une personne, il y a une obstruction nasale, on ne parle pas d'une obstruction nasale qui va durer un ou deux jours, mais qui va durer plus de 15 jours, qui devient chronique, ou quand on a des bourdonnements d'oreilles, une diminution de l'acuité visuelle, une adénopathie qui reste cervicale malgré le traitement médical. Alors, dans le cancer du carone, c'est des adénopathies qui sont hautes et postérieures et qui sont assez grosse. Alors on consulte chez un médecin, alors on fait ce qu'on appelle une cavoscopie, c'est-à-dire on fait une endoscopie ORL, on va faire entrer le cavoscope au niveau des fosses nasales et on va partir voir la fossette rotémulaire, tout le cavum, pour voir s'il y a une irrégularité ou il y a une tumeur au niveau de ce cavum-là. Et bien sûr, on fait une biopsie, on va prendre un petit prélèvement et on va l'envoyer à l'anatomopathologiste qui va nous répondre qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde ou d'un carcinome indifférencié type UCNT. C'est le deux types histologiques les plus fréquents au niveau du cavum.
Alors, qu'en est-il en termes de traitement, professeur? Et puis, est-ce qu'on peut stopper sa progression, surtout?
C'est un cancer qui est très radiosensible. D'accord. Et même, on peut dire, radiocurable. C'est une chance pour ce cancer, mais bien sûr, il faut le déceler à un stade précoce. C'est pour ça qu'on parle toujours de diagnostic précoce. Parce que, et aussi, ce cancer peut donner des métastases à distance, au niveau du poumon, du foie et de l'os aussi, puisque c'est un cancer ostéophile. Donc, on insiste sur le diagnostic précoce, justement, pour qu'on puisse pour stopper l'évolution de la maladie et pour pouvoir faire un traitement curatif local. Alors, le traitement, ce n'est pas un cancer du tout qui est chirurgical, vous le supposez, puisque vu la situation, il n'est pas du tout accessible à la chirurgie.
D'accord.
Et c'est un cancer qui est traité par radiochimiothérapie. Parfois, on fait de la chimiothérapie néo-adjuvante, c'est-à-dire avant la radiothérapie. Parfois, on fait de la radiothérapie seule ou de la radiothérapie associée à la chimiothérapie.
D'accord.
Actuellement, grâce au développement des techniques de la radiothérapie, notamment par modulation d'intensité, par stéréotaxie, on arrive à cibler cette région-là, c'est-à-dire où il y a la maladie, sans toucher les organes de voisinage, puisque c'est une région qui est très, très sensible, très critique. Il y a le cerveau à côté, il y a le nerf optique qui n'est pas loin, c'est-à-dire le conduit auditif interne pour l'audition. Et donc, c'est capital de traiter ce patient-là, c'est-à-dire cette tumeur, sans toucher c'est-à-dire les organes de voisinage qui sont sains, en les épargnant au maximum.
Si ce n'est pas traité à temps, donc vous l'avez dit, bien évidemment, le dépistage précoce reste très, très important. Mais si ce n'est pas traité à temps, quels peuvent en être les plus gros risques, j'allais dire, professeur?
Alors, malheureusement, si on ne traite pas, on a d'abord un envahissement au niveau cérébral par extension locale et on a à ce moment-là ce qu'on a dit, les céphalées, les maux de tête énormes, une paralysie oculomotrice, une diplopie et par la suite, il y aura des métastases à distance, malencontreusement, si rien n'est fait, essentiellement au niveau du foie, du poumon et de l'os. Et ça devient beaucoup plus compliqué puisque là, on est à un traitement palliatif, on n'est plus dans les traitements curatifs.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut prévenir la maladie, professeur Tahalé?
La prévention, je ne parlerai pas de prévention, mais je parlerai, comme on dit toujours, même d'une hygiène de vie.
D'accord.
En essayant d'éviter toutes les... C'est-à-dire avoir une activité sportive, avoir une alimentation équilibrée et sans ces produits, c'est-à-dire de préférence séchés, c'est-à-dire les plantes séchées et salées qui sont riches en nitrosamines qui peuvent constituer les facteurs de risque. Essayer d'éviter les facteurs infectieux, notamment l'Epstein-Barr virus. Et surtout, en moindre doute, il faut consulter pour justement déceler cette maladie qui, encore une fois, reste curable dans plus de 80% des cas, à condition d'être déceler à un stade précoce.
Alors maintenant, à toutes ces personnes qui en souffrent peut-être et qui nous écoutent, quels seraient vos conseils pour elles?
Alors, mon conseil, c'est qu'ils doivent se faire traiter assez rapidement, parce qu'encore une fois, c'est un cancer qui est curable. La radiochimiothérapie se passe sans gros problème, puisque c'est des traitements qui sont bien tolérés. Et surtout, c'est des traitements efficaces et c'est une maladie qui est curable.
C'est une maladie qui est curable. Bien évidemment, le dépistage précoce reste très très important, comme nous le rappelle toutes les semaines, donc notre professeur Tahalé. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous en ce milieu de semaine. Rendez-vous donc dès la semaine prochaine pour un autre sujet. Et je rappelle que tous les entretiens sont à retrouver, sont réécoutables sur notre site medien.com. Professeur Ali Tahalé, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
À très bientôt.
Au revoir.